Partie numéro 7. Après les vacances, septembre. Luc avait aidé sa mère alors qu'elle naviguait sous un vent fraîchissant devant les digues de Port-en-Gif. Maud avait adoré voir en son fils un adulte fiable et compétent. Quelques jours plus tard, il reprenait les cours à Marne-la-Vallée et la confiance de Maud s'effrita alors sensiblement. Il entrait en deuxième année de master, elle l'observait discrètement et se demandait s'il allait trouver le courage de partir en quête d'un stage en entreprise. Ce dernier cycle du cursus devait être suivi en alternance. La trentaine d'étudiants de sa promotion avait d'ores et déjà signé un contrat pour les deux prochains semestres. Sans doute avait-il fait jouer leur relation personnelle. Mais ils étaient, quoi qu'il en soit, parvenus à leur fin. Quant à Luc, Maud trouvait qu'il ne s'intéressait guère à la question. Il connaissait pourtant l'urgence de la situation. Ses parents n'avaient eu de cesse de le lui répéter. Mais il avait 22 ans. Thibaut et Maud n'insistaient pas davantage. Luc n'avait pas pris le temps, au mois de juin, avant son départ en vacances, de chercher un stage qui durerait un an et qui, donc, n'aurait pas l'heure de se trouver aisément sous le sabot d'un cheval. Il s'était certes heurté à l'époque, avant l'été, aux réactions pour le moins déconcertantes de sa directrice de mémoire. Elle lui imposait sans cesse, ainsi qu'à son co-rédacteur, de modifier le texte proposé. Il ne pouvait pas le présenter oralement, une étape cependant indispensable pour valider l'épreuve. Le microcosme familial était au sans-coup. Le texte devait pourtant présenter quelques qualités. Thibaut l'avait conçu, il l'avait écrit. Il l'avait relu maintes fois, ainsi que Maud, qui s'était elle aussi engagée au vu de l'inquiétude ambiante dans cette délicate affaire. Le mystère était entier, la situation bloquée, la famille désemparée. Que pouvait-on faire, mis à part admettre ? Maud ne connaissait pas Madame la directrice de mémoire, qui était également la directrice pédagogique du master. Elle l'imaginait jeune, sans doute ne dépassait-elle pas la quarantaine. Maud la supposait vive et alerte, menant habilement une avantageuse carrière. Elle disposait d'un indiscutable pouvoir et Maud, tout comme Thibaut, se demandait quelle étrange lubie taraudait cette femme alors qu'elle poursuivait son insolite harcèlement. Madame Ahmed connaissait, dans ses plus fins détails, le thème développé par le mémoire. Sa thèse avait justement porté sur le « goodwill » et ses différents traitements comptables. Le sujet n'avait aucun secret pour elle. Mais que cherchait-elle donc ? Elle n'était jamais satisfaite, et les deux étudiants ne furent autorisés à présenter leur soutenance qu'à l'ultime échéance possible. À cette date, du début du mois de juillet, ils parvinrent à quitter enfin la dangereuse zone de turbulence. Luc n'avait bien sûr pas manqué en juin de prétexter cet incompréhensible pinsom pour ne point entamer ses recherches de stage. Puis la pause estivale intervint normale pendant les 6 semaines passées à Kerbihan. Le jeune homme fit ensuite sa rentrée universitaire, sa vie s'accéléra. Chaque jour y allait en cours, de 9 à 18 heures. Les semaines passaient, septembre arrivait à son terme, et Maud était convaincue que son grand garçon n'allait pas, dans ces conditions, pousser ses investigations du côté des entreprises. Elle concluait que son fils aîné disposait bien d'un certain nombre de points forts, marins ou autres, mais il n'était certes pas aussi performant dans tous les domaines de l'existence. Il prenait la vie du bon côté et n'aurait pas eu l'idée le soir, après son harassante journée, de consulter son courrier électronique ni les sites proposant d'éventuelles offres de stage. Il lui fallait se détendre. Il reprit donc, sans tarder, après la pause de l'été, son rythme de croisière en compagnie d'Arthur, son acolyte brésilien. Il expliquait à Maud pourquoi Romain et lui étaient si souvent connectés le soir sur les réseaux sociaux. Plus précisément, ils étaient trois avec Arthur, qui participait à un nouveau jeu, dont le succès était foudroyant sur la toile. « Vois-tu, maman, expliquait Luc, c'est à cause du décalage horaire. Comment veux-tu que je fasse? Quand je reviens de Marne-la-Vallée, le soir, vers 19h, c'est à cette heure-là qu'Arthur se réveille, il se connecte. Romain et moi, on lui dit bonjour, et tous les trois, normal, on commence à jouer, et en même temps, on bavarde, c'est bien naturel, non ?» Les journées de Luc étaient bien remplies. L'idée ne lui traversait pas l'esprit de s'ennuyer avec la recherche d'un stage. À quoi servirait-il en effet de mettre la barre à une hauteur inconsidérée? Une activité trop intense aurait risqué de dégrader la qualité de son existence. Il allait en cours dans la journée, il s'adonnait le soir à ses jeux vidéo, pendant que Maud cultivait ses inquiétudes personnelles. Elle ne pouvait le traiter comme un garçonnet. En revanche, rien ne l'empêchait de se remémorer ses autres qualités qu'elle trouvait nombreuses quand elle y réfléchissait. Elle ne se privait pas de savourer ses réconfortantes pensées. Elle fortifiait ainsi sa confiance en lui, un sentiment précieux qui participait à son équilibre personnel. Tout d'abord, il était, selon elle, un véritable génie aux échecs. Il ne jouait pas souvent, et pourtant il suffisait que Maud l'affronte pour qu'elle soit laminée, exactement comme après le passage d'un imperturbable bulldozer. Il avait construit seul l'ordinateur qui lui convenait. Il avait auparavant longtemps étudié la question. Il avait acquis les meilleurs composants sur Internet et avait fabriqué un appareil surpuissant aux exceptionnelles qualités graphiques. L'équivalent n'existait pas sur le marché ou bien à un prix bien supérieur. Il avait un jour rendu un immense service à sa mère. Elle venait de terminer un livre, le fruit de nombreux mois de travail, quand le texte achevé avait soudain corps et bien disparu dans les obscures arcanes de son ordinateur. Luc avait été le seul de la famille à être capable de lui restituer l'inestimable fichier. Il savait envoyer, à la place de sa mère, des images sur Facebook. Maud se demandait ce qu'elle serait devenue sans son grand-fils. Elle avait dû, au retour de Kerbillan, s'initier à ce mode de communication sociale. Une grande maison d'auto-édition l'avait sollicitée pour organiser, à titre gracieux, des séances de lecture entre auteurs. Maud ne voulait pas manquer cette chance. Briser la solitude de l'écriture, découvrir de nouveaux auteurs, anonymes tout comme elle, favoriser le lien entre eux, la passionnait. Mais écrit libre imposait que l'information, accompagnée de photos et logos de l'entreprise, soit diffusée par Facebook. Luc lui avait enseigné le minimum indispensable. Maud aurait pu encore enrichir la liste de ses qualités. Il était curieux du caractère de ses amis. Il racontait à sa mère les relations entre les étudiants telles qu'il les percevait. Elle le trouvait sociable et accueillant. Il regardait des films appréciés par la critique, ceux de Quentin Tarantino, par exemple. Maud, pour sa part, n'appréciait pas ce metteur en scène. Elle supportait mal la violence des images, malgré le talent du célèbre Canadien. Les goûts cinématographiques de son fils témoignaient d'une plus grande ouverture d'esprit que la sienne. Il la dépassait. Elle s'en réjouissait. Une réserve demeurait cependant, qui concernait son comportement actuel d'étudiant, et si elle imaginait l'avenir, son attitude future dans la vie active. Mais elle se raisonnait, elle s'exhortait à la patience. Il évoluerait en un sens, en un autre, inévitablement, puisque rien en ce monde ne saurait demeurer figé. Il lui suffisait, avec sagesse, de ne pas l'oublier. Quant à Romain, il vivait, au retour des vacances, de plus paisibles journées. Ses cours ne reprenaient qu'au mois d'octobre. Il restait seul dans sa chambre. Sa mère s'interrogeait. N'allait-il pas tout doucement glisser vers la tristesse ? Elle-même, à sa place, aurait à coup sûr descendu les différents niveaux de cette pénible pente. Il n'avait plus l'âge d'être occupé par sa maman. Maud ne cessait pourtant de lui demander à chaque fois qu'elle quittait l'appartement s'il ne préférait pas par hasard qu'elle reste avec lui. S'il le souhaitait, ils pourraient regarder ensemble un petit film. Il déclinait gentiment sa proposition. « T'inquiète pas, maman, tout va bien se passer, » répondait-il avec un bon sourire. Maud trouvait Romain plus doux que son fils aîné. Leur relation avait été dans le passé moins heurtée qu'avec Luc. Romain s'était montré plus souple. Les contraintes qui lui étaient imposées ne relevaient en réalité que du domaine scolaire. Thibault et Maud n'étaient pas par ailleurs des parents exigeants. Maud lui posait cependant la question « Tu ne préfères pas que je reste ?» par habitude et pour la forme, pour se rassurer également. Ensuite seulement elle le quittait. Elle écrivait dehors le récit de leurs dernières 6 semaines passées à Kerbillan. Celui-ci deviendrait plus tard, une fois retravaillé, l'un de ses futurs livres auto-édités. Elle sortait tout en espérant que Romain n'était ni ne deviendrait jamais comme elle une victime privilégiée du vide existentiel. Ainsi qualifiait-elle désormais le malaise qui l'affectait depuis des années. À l'âge de Romain, elle en souffrait déjà. Irène, son amie de Haute-Savoie, qui resta en septembre quelques jours à Paris, eut droit à ses interrogations du moment. Irène a 3 grands-enfants, dont 2 sont mariés, déjà parents eux-mêmes. Elle a gagné au fil de l'existence un superbe tempérament positif et encourageant. Elle éprouve, ancrée en elle, la peur viscérale de blesser l'autre, sans doute parce qu'elle le fut lorsqu'elle était enfant. Maud lui avait parlé de son ennemi personnel, son bien trop familier, vide, existentiel. Elle craignait de le léguer à ses enfants. Cette appréhension l'habitait depuis longtemps. « Et toi, lui avait-elle demandé, as-tu connu ce genre d'inquiétude ?» Irène avait longtemps été une mère anxieuse. « Cela, non, lui avait-elle répondu. Je l'ai toujours su. Mes enfants n'ont rien pris de mon malaise. J'en suis certaine. » Irène, sans l'ombre d'une hésitation, avait accompagné sa réponse d'un réconfortant sourire et Maud avait éprouvé à cet instant combien l'amitié peut être bénéfique. Irène avait répondu spontanément, l'évidence s'imposait, la question de Maud n'était pas loin de paraître saugrenue. Ainsi donc, pensa Maud, c'est donc possible, aussi simplement de se sentir léger, aussi peu concernée par ce genre de crainte. Elle alla même jusqu'à dire, entraînée par la sérénité de son amie, « Bien de mon côté, après tout, peut-être est-ce la même chose. Mes garçons, peut-être, n'ont pas ma fragilité. » Maud avait dit son avis, il est facile de s'exprimer au présent et dans l'instant. Encore s'agissait-il de le confirmer dans la durée. Et elle aperçut son fils au fil de ses journées, dans la durée justement, avant qu'il ne reprenne les cours. Il était seul, elle le sentait à l'aise, il se levait tard, détendu, la démarche souple. un sourire tranquille flottait sur ses lèvres, ou bien, s'il n'était pas visible, il l'affleurait sur son visage tout près, on le devinait facilement. Il se dirigeait paisiblement vers le grand écran mural de la télévision, il s'asseyait sur le côté droit du canapé, les pieds sur la table basse et allumait l'appareil. Quelques moments d'une émission apparaissaient alors, sportive le plus souvent, surtout si un match de football avait eu lieu la veille, et encore plus probablement si le PSG y avait participé, ou bien il était séduit par les images d'un film fréquemment sur Canal+. Il s'y arrêtait, il le regardait parfois jusqu'à la fin. Maud l'avait vu un matin bien s'amuser devant une comédie sans prétention. Une petite équipe de football du fin fond de la Bretagne tentait de s'améliorer sous l'impulsion d'un ancien grand joueur. Il riait. L'atmosphère n'était pas la mélancolie. Il était aussi attiré par les chaînes spécialisées sur la nature, les grandes expéditions, les animaux et les paysages. Il voyageait à travers continents et océans, confortablement installé sur son canapé. Il lisait ensuite, ou bien il naviguait sur Internet et au retour de son frère, les parties à trois commençaient. Il profitait. Il avait du temps. Il semblait heureux. Maud repensait à Irène et à sa remarque spontanée. Elle s'amusait intérieurement. Peut-être appartenait-elle au même club que son ami. Peut-être un jour réagirait-elle comme elle si un jour on lui posait cette même question qu'elle-même avait formulée, et alors, sans même réfléchir, sûre d'elle, tout à fait naturelle, elle répondrait presque étonnée de l'incongruité de la demande, elle répondrait « Moi, mes enfants, angoissés ?» Non, jamais. Les journées de septembre s'écoulaient, légères, déferlantes. Un beau soir du mois de juin, Luc reçut un appel angoissé d'Alex. « Luc, regarde tes mails, » lui disait-il. « Il est trop nul, notre mémoire. On ne peut pas passer demain. » Les autres binômes présentaient dans la matinée leur exposé oral. Alex et Luc étaient les seuls à subir un traitement particulier. Ils furent envahis par un terrible sentiment de honte. Les autres seraient, d'ici 24 heures, débarrassés de l'inévitable pinsomme. Leur déception était d'autant plus vive que les deux jeunes gens avaient peaufiné, avec amour quasiment, la dernière version du document. Une semaine plus tôt, Luc y avait consacré une grande partie de la nuit qui précédait la date limite d'envoi. Il avait encadré le texte, coloré les titres, modifié les polices, soigné le sommaire, les annexes, les pages de garde, les préalables, les prologues et les remerciements en tout genre. Le travail n'était certes ni intellectuel ni complexe, mais il était long et laborieux. Les heures étaient passées. Il s'était couché tard, les épaules sous la couette et les orteils à l'extérieur du lit. Il était si grand qu'une extrémité ou l'autre de son vaste corps dépassait le plus souvent du matelas. Il reposait dans le noir, assez fier de lui. L'objet transmis avait tout compte fait, belle allure. Il avait réussi à l'envoyer, il s'en était débarrassé, le document était dans le tuyau, il suffisait maintenant d'attendre, comme les autres, tranquillement, la suite des événements. Du beau boulot, non ? Chuchotait au creux de son oreille une lointaine et séduisante voix. Il le maîtrisait bien désormais, le texte, écrit par son père, mais qu'il avait vu et revu avec sa mère. Il le connaissait très exactement, comme s'il l'avait lui-même rédigé. Il saurait, à l'avenir, mieux que les fois précédentes, répondre à toutes les questions de sa directrice de mémoire. Un discret sourire flottait sur ses lèvres, il s'était assoupi, il avait dormi quelques heures, accompagné par l'agréable sentiment du devoir accompli, du travail bien fait, de la mission achevée. Les jours passèrent au nombre de 6 et 20 le soir, où il entendit au téléphone la voix affolée d'Alex. un direct du droit le frappa en pleine poitrine, que l'on ajoute à son malaise le profond sentiment de gêne qu'il éprouvait envers son camarade, et l'on obtiendra un bon aperçu de son humeur du moment. Alex était le bon copain qu'il avait fréquenté toute l'année. Il était le petit gars typiquement débrouillard, le seul de la promotion qui n'était pas entré à l'université par la voie royale consistant à arborer son diplôme de comptabilité-gestion pour en franchir le seuil. Son BTS en poche avait produit le même effet. Il n'avait pas été admis en raison de son exceptionnel cursus d'étudiant, mais parce qu'il avait déployé dans le passé une prodigieuse énergie en dehors du système universitaire. Luc avait un jour montré son impressionnant CV à sa mère. Il avait, depuis le lycée, multiplié par dizaines les expériences professionnelles. Il avait travaillé dans des magasins de petite et de grande distribution. Pendant les petites et les grandes vacances, il lui suffisait de 2 ou 3 jours de congé pour se proposer comme manutentionnaire, magasinier, caissier, standardiste, comptable de base, préposé au courrier, pour ne citer que quelques exemples, parmi les mentions de son étonnant CV. À la lecture du document, Maud l'avait imaginé, alerte et bondissant par monts et par veaux, toujours prêt, les talons calés au creux des starting blocks, à l'affût et réactif, le sourire aux lèvres et le courage en bandoulière, doté d'un tempérament opposé à celui de Luc. Ce jeune homme, gratifié d'une vitalité scintillant de 1000 feux, devait savoir s'adapter et s'intégrer aisément dans un groupe et percevoir sans peine l'esprit d'équipe du moment. Il était capable d'y adhérer et d'acquérir ainsi une appréciable influence sur le groupe. Luc présentait, pour sa part, sur le papier, un parcours scolaire idéal. Il avait obtenu en 3 ans le diplôme de comptabilité-gestion qui ne pouvait être préparé plus rapidement. Il avait dans ce cadre effectué les 8 semaines obligatoires de stage. Il n'y avait pas ajouté une seule journée supplémentaire. Un quelconque lecteur de son CV aurait aisément interprété que le jeune homme avait en conséquence paisiblement profité de ses longues vacances d'étudiant sans le moindre nuage d'angoisse pour les assombrir. Alex habitait Nantes et il avait habité pendant l'année universitaire un studio à Marne-la-Vallée. Luc y avait souvent dormi après une soirée passée entre amis. Le logement lui était devenu une sorte de pied-à-terre près de la faculté. Il se trouva aux premières loges pour suivre l'évolution de la vie sentimentale de son ami. Il s'était demandé laquelle des étudiantes de leur promotion deviendrait l'heureuse élue. Alex avait tenté une approche décidée avec l'une d'elles, une jolie jeune fille, plutôt timide et attachante, peut-être triste et compliquée. Tel fut le portrait que Maud, intéressée, réussit à obtenir de Luc. Leur brève aventure se termina par un échec. Vint ensuite le tour de Sandra. L'histoire fut plus heureuse. La jeune fille habitait chez ses parents à Boissy-Saint-Léger et tous deux atteignirent rapidement le statut de couple officiel sous le regard attentif et bienveillant de Luc. Alex et Luc s'étaient constitués en binôme pour la rédaction du mémoire. Le sujet relatif au goodwill et au pilotage des résultats comptables était éminemment sérieux. Thibault avait, dès l'origine, perçu l'ampleur du sujet et le type de conclusion pertinente auquel il pouvait conduire. Une matière abondante et solide serait à disposition. Ce thème était à l'opposé de certaines considérations floues et inconsistantes proposées par ailleurs dans la liste des mémoires possibles. La recherche serait à coup sûr formatrice pour son fils. Luc n'avait pas d'idée quant au choix du sujet. Il écouta son père et annonça à Madame Ahmed que le goodwill avait retenu son attention. « Ah ah !» commenta celle-ci avec une évidente satisfaction. « Quelqu'un a enfin choisi ce sujet. Parfait !» Luc crut, à cet instant, déceler l'ombre d'une menace qui planait sur le sourire ambigu de son professeur. « Voici donc l'équipe qui va s'y frotter, » ajouta-t-elle. « Bravo, je vous félicite, » avait-elle conclu. Madame Ahmed avait soutenu sa thèse de doctorat sur ce thème. Elle semblait se réjouir de renouer avec ce sujet d'exception. Alex avait fait confiance à Luc. Il n'était pas passionné par la question et lui abandonna aisément la direction des opérations. Avant chaque entretien avec Madame Ahmed, Luc lui expliquait, du mieux qu'il pouvait, le contenu du document. Lui-même tenait ses informations de son père. La compréhension d'Alex n'était qu'approximative, mais il supposait que Luc maîtrisait son affaire. Il n'avait pas le choix et s'en remettait à son ami. C'est pourquoi Luc se sentit terriblement gêné le soir du violent coup de tonnerre qui s'abattit brutalement quelques heures avant leur soutenance présumée. Luc était découragé, mais il était également submergé